C'est donc nous allons étudier un texte qui illustre le sujet général du temps de l'avènement messianique. Donc un point particulier que nous allons prendre en diagonale sur le sujet général des études du matin. Et c'est un texte que nous allons voir peut-être assez rapidement. Et peut-être en deuxième partie, nous aurons encore le temps de discuter des questions qui ont été posées encore vendredi matin et auxquelles on n'avait pas eu le temps de répondre. En tout cas, j'en vois une là. Et une deuxième là. Donc. Alors, si vous voulez, nous allons commencer tout de suite. Vous avez une page qui se trouve à la page 432 de l'édition de Stenzel de la Gomara, du Talmud, et qui est la page 98B des éditions classiques, des éditions traditionnelles. Je vais simplement introduire ce texte qui veut nous décrire une situation, disons, non pas de doute, peut-être même plus que de perplexité, d'après le vocabulaire qu'on a déjà employé, mais une situation d'inquiétude à l'idée de ce qu'il risque de se passer au temps de l'avènement messianique. C'est une discussion talmudique qui est formulée depuis énormément de temps, depuis des siècles et des siècles, mais qui formule une problématique de, disons, plus que de perplexité. Je vais essayer d'introduire très rapidement. Il y a une catégorie dans ce même chapitre, d'ailleurs, qui est le 11e chapitre de la Gemara de Sanhedrin. Il y a un principe, une catégorie très familière à ceux qui étudient le Talmud par rapport à ce problème. C'est que, entre autres précisions, on nous enseigne que l'avènement messianique peut se faire de deux manières radicalement différentes. De deux manières radicalement différentes, suivant que cet avènement est mérité, et par conséquent, il arrive dès que le mérite est suffisant. Nous ne disposons pas des critères de ce mérite, mais en tout cas, nous essaierons de, à travers cette lecture, d'en définir autant que se peut une définition de la nature même de ce mérite. Les critères d'évaluation du mérite n'étant pas entre les mains des hommes. Et donc, s'il y a mérite, l'avènement messianique, qui dans le temps légitime est la troisième partie des six millénaires de l'histoire, c'est-à-dire les deux millénaires de la fin des six millénaires, cette période de temps qui commence à la destruction du premier royaume de Juda, et puis qui est grosso modo renvoyée dans sa durée pendant 2000 ans, jusqu'à ce que nous appelons la fin des temps de l'exil, mais qui coïncide d'autre part dans cette catégorie avec la fin de cette période des 6000 ans, qui est un thème d'abord talmudique, qui est souvent repris aussi dans les écrits de la Kabbalah, avec le thème avec lequel vous êtes sans doute familier, c'est que sur le modèle de la semaine du commencement décrite dans le premier chapitre de la Genèse, 6 jours et le 7e, nous avons un plan de 6 périodes et une 7e qui est aussi exprimé au niveau de l'histoire, 6000 ans et le 7e millénaire. Le sujet n'est pas du tout le millénarisme, par conséquent, j'entends bien que par association on pouvait le relier, mais il y a une sorte de tradition qui est que l'histoire, je reprends peut-être certaines définitions que nous avons eues cette semaine, l'histoire comprise en tant qu'effort d'engendrement de l'identité messianique se développe à peu près parallèlement à ce rythme de 6 jours du travail, 6 jours de la semaine, et le 7e jour, c'est-à-dire donc 6 millénaires et le 7e. Je crois qu'il faut évidemment se méfier beaucoup. Se méfier beaucoup de l'atmosphère de millénarisme. Vous savez que chaque fois qu'on s'approchait de l'an 1000, que ce soit 1000, 2000, 3000, etc., une grande inquiétude prend le monde entier, catastrophe, bouleversement. Je sais qu'énormément de livres paraissent un peu sur ces sujets-là, en particulier la réédition des centuries de Nostradamus, ou énormément de livres de ce genre. Laissons ça de côté. Simplement prenons acte que des événements je vais essayer de me borner à décrire, mais il était inévitable qu'une description entraîne l'éventualité d'une lecture interprétative. Disons que des événements massifs, importants, à deux registres à la fois, des événements catastrophiques, par exemple, à la limite, la Shoah, des événements d'autre part de résurrection nationale, quelles que soient les options politiques qu'on peut avoir à ce sujet, accompagnent, sont contemporains de la fin de ces 2000 ans d'exil qui coïncident dans le calendrier hébraïque avec la fin des 6000 ans du calendrier hébraïque. Je pense que l'introduction est suffisante. Et donc, la problématique qu'on nous désigne dans la Gemara de Sanhedrin, à propos des deux cheminements, des deux stratégies, des deux éventualités de l'avènement messianique, c'est que ou bien il y a un mérite suffisant, et alors cet avènement peut avoir lieu le plus tôt possible à travers ces 2000 ans, ou bien il n'y a pas de mérite suffisant et il arrive en son temps. En son temps, c'est-à-dire à la fin de ces 2000 ans. Je crois qu'il suffit de noter qu'il y a ici une coïncidence entre la réalité et ses enseignements, puisqu'effectivement, les événements que nous vivons d'après le calendrier hébraïque apparaissent à la fin du 6e millénaire. Nous sommes en l'année 5743. Et les événements commencent depuis une centaine d'années à se préparer. Bon, dans la perspective, si vous voulez, que le Shabbat s'est commencé d'après la tradition juive avant la nuit. Erev Shabbat, c'est déjà un peu avant la fin du 6e jour. Donc nous sommes à peu près, depuis une centaine d'années, grosso modo disons, je crois que vous pouvez donner des précisions, et nous sommes à peu près à cet événement qui était vu à l'avance par les rabbins du Talmud dans cette problématique de deux éventualités différentes. Je crois que on pourrait comprendre ce souci qui va nous être décrit, et nous allons voir monter le niveau de l'inquiétude jusqu'à l'angoisse, une angoisse grave, difficile. C'est que, à l'origine de l'espérance messianique, ces deux éventualités avaient autant de chances l'une que l'autre. C'est-à-dire, soit il y a suffisamment de mérite, et alors tout se passera le plus vite possible dans la gloire, dans l'aisance, dans le bonheur, c'est ce que nous appelons l'eschatologie bienheureuse. Ou bien au contraire, il n'y a pas de mérite suffisant, alors tout arrivera en son temps, dans un accouchement difficile, dans des cataclysmes, dans des bouleversements, qui atteindront en tout cas l'histoire d'Israël centrale. Mais remettons-nous, si vous voulez, au temps des prophètes, bien avant les 2000 ans, et dans la deuxième partie des 3 fois 2000 ans, vous trouverez déjà chez les prophètes ces deux, la description de ces deux éventualités. Parce que le prophète parle du temps de l'avènement messianique, alors qu'il prend comme postulat on va le mériter, tout va se passer très bien, c'est la transfiguration aisée dans le bonheur d'être. C'est pas ce qui est arrivé malheureusement. Mais c'était la première perspective possible. Lorsqu'il pense à la perspective catastrophique, alors ce qui est décrit est épouvantable. Mais nous avons les deux descriptions à l'avance. Il faut, a priori, il faut simplement penser qu'il y a une charnière de liberté de l'histoire de ce peuple qui est concernée par cet enseignement, premièrement des prophètes et ensuite de leurs disciples et les maîtres du Talmud, et une charnière de liberté, et donc un indice de responsabilité. Tous ces problèmes, nous allons les retrouver à la lecture du texte. Et qu'est-ce qui fait que c'est plutôt comme cela la perspective de l'eschatologie bienheureuse, ou au contraire, la perspective de l'eschatologie catastrophique? Mais ce que je voulais mettre en évidence d'abord, c'est qu'a priori, il n'y a pas de contradiction entre ces deux sortes de textes. Vous les trouvez chez les prophètes, les uns comme les autres, vous les trouvez aussi dans les Mahamarim du Talmud, ou dans le Midrash, à propos de chaque occurrence des événements, de l'avènement du temps messianique. Donc ça n'a aucun sens d'opposer deux écoles qui diraient c'est ou ça ou ça. En réalité, c'est une problématique donnée à la liberté. Cela pouvait être ou comme ça, semble-t-il avec le temps. Les rabbins prennent acte que tout se passe comme si les événements se dirigent vers la perspective catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle avec le temps, ces textes qui décrivent la perspective catastrophique prennent plus de place, plus d'importance, occupent plus, si vous voulez, l'écran de la pensée et de la ferveur à ce sujet. Je pense que j'ai été suffisamment clair sur ce point, et nous allons commencer à lire un texte que probablement certains d'entre vous ont dû étudier dans d'autres occasions, qui prend cette perspective. Alors vous lisez à partir d'un paragraphe bien marqué « Aleph ». Avec l'expression suivante, Amar Oula, Oula enseigne, Yati, Yete Vela Achmine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. D'après le contexte précédent, il est évident qu'il s'agit du Messie. Qu'il vienne, et peu importe à ce niveau de lecture s'il s'agit du Machia Ben Yosef ou du Machia Ben David. Mais voilà que Raoul, un des grands d'Israël du temps de l'enseignement talmudique, formule une inquiétude, dans une formule limite. Qu'ils viennent, parce qu'il faut qu'ils viennent, il faut que l'histoire aboutisse. Il faut qu'il y ait un sens à tout ce qui s'est passé depuis le temps du premier homme. Il faut que tout cela se régularise, s'authentifie. Il viendra. Donc qu'ils viennent. Et si j'osais, j'interprétais ainsi, ça ne dépend pas de nous, il viendra, dans tous les cas. S'il vient vite et de manière facile pour l'histoire d'Israël, ça dépend de nous. Mais dans tous les cas, même si nous n'avons pas suffisamment de mérite, il viendra. Donc qu'il vienne. Donc on pourrait faire le bilan de ce premier mois ainsi. Je vois Arminé, mais que je ne le vois pas. Ça veut dire, mais que je ne sois pas en ce temps-là, que je n'assiste pas à la manière dont il viendra. Je crois qu'il y a là un problème d'exégèse qui est en soi une difficulté. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre quelle est l'attitude dans laquelle se place Oula. Étant donné d'une part... l'importance que cet avènement messianique en tant qu'événement a pour Oula lui-même. D'autre part, le niveau de grandeur de Oula, vous savez que lorsqu'on cite dans la Gemara un maître sans lui donner de titre, c'est qu'il est si grand qu'il n'y a aucun titre qui lui va. La formule, c'est Gadol, mais Gadol, je crois que c'est d'abord Ribi, Rabbi, ensuite Rav, ensuite Rabban, mais Gadol, mais Rabban, Shmo. Plus haut que Rabban, on n'a plus de titre. C'est le cas, par exemple, de Oula, qui est cité avec son nom, sans titre. Donc, c'est un grand d'Israël. Et donc, il pense à... Il a une inquiétude qui dépasse ce qui pourrait être, simplement, la peur des souffrances. Purement et simplement, au niveau de l'expérience habituelle. Les souffrances, ça fait souffrir, on saura qu'il y aura des souffrances, et donc, j'ai peur d'être en ce temps-là où il y aura des souffrances. Oui, mais il s'agit de Oula. C'est-à-dire, des hommes qui étaient... Et qui, d'ailleurs, on en témoignait, prêt à supporter le martyr, comme on dit en français, comme on dit vivre le martyr. Subir le martyr. Et effectivement, c'était des temps de persécution, des temps d'occupation de la Judée, c'était des temps très difficiles. Et voilà que ces hommes-là disent ce qui est espéré pour le salut du monde et à travers le salut d'Israël, qu'ils viennent, mais que je ne le vois pas. Donc, pour restituer les motifs de l'inquiétude, il faut se placer très haut. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas là une explication pourquoi les événements qui se sont passés comme ils se sont passés, c'est-à-dire dans la perspective catastrophique. Mais que les rabbins du Talmud, en tant qu'ils sont les disciples des prophètes, savaient à l'avance qu'il y avait deux éventualités, dont celle-là. Et que, très rapidement, nous voyons qu'ils ont fini par... craignent de savoir que c'était la deuxième éventualité catastrophique qui apparaîtrait. Encore une fois, je veux dire qu'il n'y a pas là une théodicée de justification pourquoi Dieu agit ainsi dans l'histoire. Ce n'est pas ce problème-là. C'est le fait de prendre acte que les rabbins, à l'intérieur même de leur foi du monothéisme hébraïque, savaient qu'il y avait une éventualité catastrophique de ce type, et malheureusement, nous en avons vécu, en particulier au niveau de la Shoah, la réalité. Ça veut dire qu'ils le savaient à l'avance, que c'était possible. Parce que c'est bien clair. Le fait qu'ils sachent que ce soit possible, c'est pas ça qui cause le fait que ça soit arrivé. Vous comprenez bien, c'est un autre problème. C'est comme si, par exemple, si quelqu'un connaissait suffisamment le fonctionnement du cadran de l'horloge de la loi des temps, c'est pas parce que l'aiguille arrive à la 11e heure que l'aiguille déclenche ce qui se passe à la 11e heure. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le fait de voir l'aiguille qui déclenche ça. C'est donc ce que je voulais mettre en évidence. Alors voilà, Oula, Yahati Velo Armine. Donc nous avons cette formule dans la bouche de Oula, première. Deuxième, Vechen Amar Rabba. Et Rabba aussi a enseigné Yeti Velo Armine, qu'il vienne et que je ne le vois pas. On va avancer un peu plus rapidement, mais nous découvrons déjà qu'il y a deux systèmes. Il y a le système de l'intention dans laquelle Oula dit cette phrase, et le système dans laquelle l'intention. Dans laquelle Rabat dit cette phrase et dans quelle intention. Vous comprenez ce que je veux dire là, hein? Mais nous allons faire comme si la phrase a le même sens chez les deux, parce que ça nous mènerait dans des exégèses de détails trop fines, d'autant plus que la Gemara, elle, va embrayer dans l'élucidation de la Kavana, de l'intention dans laquelle Rabat, le deuxième, a dit cette même phrase. Donc le titre, c'est « Oula qui avait dit ça ». Mais voilà que nous pouvons mieux comprendre chez Rabat, parce que nous allons entrer dans une discussion entre Rabat et un de ses disciples. Vous y êtes ? Bon, alors j'avance. Rav Yosef Amar, alors que Rav Yosef lui dit, Yete, qui vient de Iske, de Yeti, de Eti, Betula, de Chofita, de Hamre. C'est le ramène, ce qui veut dire qu'il vienne et que je puisse mériter de me trouver à l'ombre des excréments de son âme. Vous voyez le contraste. L'un dit qu'il vienne, mais surtout que j'y sois. Ce qui va se passer est tellement terrible que moi, le héros du martyr, je pourrais pas. C'est Aula, Rabat qui parle. Tandis que Rav Yosef, un autre Rav, dit non, qu'il vienne, et quoi qu'il en soit, si j'ai la chance de pouvoir être au niveau de la plus grande des matérialités de ce temps-là, ce sera la plus grande lumière. Je commence déjà à interpréter, si vous voulez, qu'est-ce que ça peut être l'ombre de l'excrément de son âme. L'imagerie mythique va tout de suite s'occuper de l'âme du Mashiach. Les rabbins, non. Les rabbins s'occupent des excréments de l'âme et de l'ombre que ça donne. En tout cas, en hébreu, Hamor, comme vous le savez déjà, c'est l'âme, ça veut dire la matérialité, Homer. Et je vous cite ici l'explication du Maharal dans Netzach Israël sur ce passage, sur ce point en tout cas. Ça veut dire que la matérialité la plus matérielle de ce temps de transfiguration du monde sera encore la plus grande lumière et que je la mérite. Et on peut dire aussi que c'est les deux systèmes qui sont là. Si ça vient catastrophiquement, qu'il vienne mais que je ne le vois pas. Mais si ça vient béatifiquement, je ne sais pas comment dire, alors là, le fait d'être au niveau de la matérialité la plus grande, c'est déjà la plus grande lumière transfigurée. On va plus comprendre l'opinion de Rabat, mais je crois qu'il faut se laisser éclairer déjà par ce coup de projecteur de l'opinion de Rabbi Yosef. Je veux ici ouvrir une petite parenthèse. Nous avons parlé dans la semaine de la différence entre l'attitude du mythe et l'attitude du midrash. Je crois qu'il faut bien prendre garde à ne pas risquer d'être impatient et d'être sollicité, disons, par la frontière ou le vocabulaire du mythe. Je voudrais l'expliquer de cette manière. Ici, les rabbins, et si vous avez fait un peu de Talmud, vous savez que les rabbins sont des gens très sérieux, même quand ils se trouvent. Et ils formulent ce qu'on pourrait définir comme étant l'exigence d'un enfant qui n'est pas encore contaminé par la déception de la culture déçue d'elle-même. Et qui garde la, si vous voulez, la fraîcheur de l'exigence d'être, d'une conscience qui vient à peine de prendre conscience d'elle-même, à sa naissance dans le monde, et qui, bientôt, tout de suite, va s'étonner de ce que le monde ne correspond pas avec l'exigence qu'il y a au sein d'elle-même. Mais finalement, à tous les niveaux, les prophètes et par la suite les maîtres du Talmud ne nous parlent que de ça. Quelle est l'espérance de la foi messianique? C'est qu'un jour le monde sera comme purement et simplement les enfants, on va nous parler des enfants d'Israël, mais ça pourrait être à l'origine n'importe quel enfant, elle ressemble. Un monde que nous appelons, nous, les adultes, transfigurés, mais que les prophètes ont parlé comme si ça va de soi, que c'est ainsi que ça doit être, a priori, et pas seulement le fait d'avoir à transfigurer une obscurité, que d'emblée, c'est cela le monde, mais seulement il nous est caché par des ombres. Mais à partir de là, il y a la difficulté du langage du mythe. C'est pas mythifié, ce qui est dit là. Ce qui est dit là, c'est que c'est vrai que l'homme authentique, l'homme vrai, se dirige vers un stade du monde où le monde vaut la peine d'être vécu, où la lumière, c'est la lumière. Et ce concept de transfiguration que nous employons, eh bien, ça récapitule énormément d'expériences, d'espérances que les analyses très très minutieuses que nous trouvons dans les livres de la Kabbalah, qui sont à un tout autre niveau que l'enseignement talmudique ou midrashique, décrivent les mondes lorsqu'ils sont transfigurés. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors donc, nous avons deux lectures possibles. Ou bien Rav Yosef va nous le dire à Rabat, ou d'ailleurs à Oula, et même s'il y a les catastrophes que tu crains, ça vaudra la peine d'être à l'ombre de l'ombre de la plus grande ombre, c'est ça la lumière, à ce moment-là. Peut-être que nous sommes déjà, et c'est là que, si vous voulez, il faut se prémunir du langage du mythe, ou d'une espèce de vocabulaire de type midrashique, science-fiction contemporaine, mais c'est quand même du mythe. Mais je pense qu'il y a déjà, dans la vie peut-être, de quelqu'un du XVIIIe siècle, au niveau de ce qu'étaient les capacités techniques du monde de la matière fin 18e siècle, par rapport à ce que deviennent les capacités de potentialité de ce que sera un monde tel que nos enfants, nos petits-enfants plutôt, commencent déjà à le déchiffrer à travers leurs ordinateurs et leurs catégories d'informaticiens. Si la clause de la moralité était déjà assurée, ce serait déjà un monde qui pourrait être transfiguré à partir de la matière la plus matérielle. Donc, je jette simplement ce vocabulaire-là en passant. Nous sommes témoins que c'est possible. Il y a une clause, la moralité, mais il est évident que c'est possible. Par exemple, essayons de nous souvenir, le temps où il n'y avait pas encore le téléphone. Et si on lisait dans le Midrash, un jour, les hommes parlaient d'un côté de la terre à l'autre, on se disait « imagination midrashique ». Et puis, subitement, il y a eu le téléphone. Alors ça va tellement de soi qu'on n'est plus le Midrash. Je n'ai pas dit que c'est ça le Midrash, que le Midrash voulait dire. Tout simplement, j'ai dit que nous avons des exemples que c'est possible. Ce que, dont nous avons dans le Midrash. Par exemple, vous avez un autre texte qui dit que, ben, au temps messianique, il n'y aura plus de problème économique, comment on va manger? Eh bien, les arbres porteront des repas tout faits. Il y a déjà des arbres qui donnent presque des repas tout faits. Ça s'appelle même un avocat, non? Il paraît. Bon, je ne sais pas de quoi il s'agit, la camarade dit glouskaot. Glouskaot, c'est déjà des gâteaux avec de la confiture. Ça pousserait sur les arbres. On a parlé un jour des arbres à pain. Peut-être c'est du vrai pain. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut se dégager du risque de la mythologie, si vous voulez, de ces choses-là. Et simplement se rendre compte que concrètement, nous sommes témoins qu'il y a des choses de cet ordre qui sont possibles. Le génie de la prophétie hébraïque, c'est de savoir qu'il y a une clause de moralité. Et c'est pourquoi nous sommes très différents des mythes. Enfin, dans un monde très différent des mythes, ou de la science-fiction contemporaine, qui ne manque pas de sagacité, je dois vous dire. C'est peut-être là une pré-tentative de ce que serait le style du Midrash, du monde moderne, à condition qu'il ne soit pas mythifié. Je pense que c'est clair. C'était la première problématique. La deuxième étant que Rabbi Yosef, lui, est un optimiste absolu. Non, nous sommes ici à plusieurs siècles, presque un millénaire et plus qu'un demi. Non, l'optimisme, le peuple d'Israël, méritera la voie royale, méritera la voie transfigurée a priori, et donc qu'il vienne, et que je puisse moi mériter d'être là. Alors que toi, tu dis que je puisse mériter de ne pas y être. Vous avez compris le problème. Il y a ces deux lectures aussi. Alors on avance. Amarli, Rabaye, les rabbins. Vous avez dans votre texte deux fois le mot rabba, une fois avec aleph, une fois avec he. Comme nous ne sommes pas exactement sûrs si ce dialogue est avec rabba, aleph ou rabba, he, ce sont deux rabbins différents, alors on a mis les deux. Mais enfin, c'est surtout le contenu du dialogue qui est important. Pourquoi c'est important de savoir qui dit quoi? C'est pourquoi toujours, l'enseignement talmudique précise de façon très très méticuleuse, minutieuse, cette phrase a été dite par qui? Parce que la même phrase dite par quelqu'un d'autre a un sens radicalement différent. Il faut reporter chaque formule au système global de chacun des enseignants. C'est clair, c'est bien. Je me rappelle qu'une fois parlant de ces choses-là, je donnais l'exemple suivant. J'ai été frappé une fois par une carte postale, d'Angleterre d'ailleurs. On voit un bébé. Ça c'est l'humour anglais, on voit un bébé tout nu qui vient de naître, mais assis dans la position du Bouddha, et qui dit, enfin la légende, « Ah mes enfants, le monde, un bébé. » Si c'est un vieillard qui dit ça, ça a un sens. Si c'est un bébé anglais, ça a un autre sens. Alors, c'est la même chose. Par exemple, une phrase importante, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui, si c'est Rabbi Akiva qui cite ça, ça a un sens bien précis. Si c'est cité dans les évangiles, ça a tout autre sens. Et pourtant, c'est la même phrase. Pour revenir à un de nos problèmes. Par exemple, au niveau de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, Va'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zek l'algado batora. C'est un grand principe de la Torah. Bon. Qu'est-ce que ferait quelqu'un qui lirait la connotation de ce verset de manière chrétienne plutôt que de manière juive? Il nous expliquerait ça comme ça. C'est un grand principe de la Torah. La Torah, on peut la mettre de côté, le principe, on va le prendre. Okay? Mais entendez bien Rabbi Akiva. Ça veut dire que c'est efficace que comme principe d'une Torah. Il faut une Torah de ça. Oui. Alors que dans l'atmosphère chrétienne, c'est justement ce verset qui va évacuer la Torah. Tout le contraire. C'est clair jusque-là? Et donc, à moi, Rabbi Akiva, c'est très important, parce que n'importe qui pourrait lire ce verset-là. Et en lui donnant une connotation très différente, c'est donc la règle générale que nous avons. Alors, Mère, d'abord, Béché, Mombro, Mévi, Géoulala. Et pour vous citer un chidouche à propos de cette Mishnah, c'est une braïta d'ailleurs de Amar Rabbi Akiva, et essayez de l'entendre rapidement en hébreu. Le pshat dit Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta le'racha kamocha, zeklal gadol vator. Et ça veut dire dans ce pshat, Rabbi Akiva a enseigné ce verset que nous connaissons de Torah Moshe, de la Torah de Moïse, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah. C'est-à-dire que nous pouvons lire et organiser tous les enseignements de la Torah autour de ce principe. Il y a deux autres propositions d'enseignement corollaires, deux autres principes qui sont cités par deux autres rabbins, on a isolé dans cette citation l'enseignement de Rabbi Akiva. Mais je vais relire la phrase, sans changer les mots, ni l'ordre des mots, mais en changeant l'accentuation. Amar Rabbi Akiva, ve'avta le'acha kamocha, ze klal gadol bator. Dans le sens de ze klal shel gadol bator. Ça veut dire que c'est le principe d'un grand de la Torah. Il faut être grand dans la Torah pour savoir manier cela. C'est ce que veut dire Rabbi Akiva. Zeklal gadol vator. Et on parle de Zeklal gadol vator. Vous avez entendu les termes? Alors on revient au Messie. Alors donc, Abaye va demander à Rabba, celui qui avait dit Yeti velo Achmene, qu'il vienne et que je ne le vois pas. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison? Et ça veut dire pour quelle raison toi tu dis cela? Oui, asseyez-vous, prenez le temps. Non, asseyez-vous là. Alors, hypothèse que propose Abaye, c'est-à-dire dans ce dialogue, on nous met en forme un dialogue de contenu d'opinion. Maïtama, pour quelle raison lui demande-t-il? Elima, Mishum Chelo, Shem Mashiach. Peut-être à cause de ce que l'on appelle les souffrances de l'enfantement du Messie. Chevlo shel Mashiach, mais c'est le Chavalim du Mashiach lui-même. Le Messie en train d'engendrer souffre. Souffre quand l'accouchement n'est pas aisé, quand l'accouchement n'est pas facile, quand les événements font que cette normalité du monde selon le projet du Créateur doit être arrachée au conditionnement naturel à travers, et qu'il faut faire éclater à travers lesquels les événements se passent. C'est clair jusqu'au bout. Alors peut-être tu penses à cela, Chevlo shel Mashiach, et tu en as peur. Or, dit toujours Abaye à Rabba, c'est invraisemblable, parce que tu connais toi-même cet enseignement que nous connaissons de notre âme, Véha Tanya, la suite. Et n'est-ce pas qu'il a été enseigné Sha'alut Talmida avec Rabbi El-Hazar. On avait les élèves de Rabbi El-Hazar avaient interrogé leur maître. Maya Asi Adam Veinatzel Mechevo Shem Mashiach. Que peut faire l'homme et être sauvé pour cela? Bon. Est-ce que quelqu'un peut dire là-haut de fermer la porte, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc prenez deux minutes et je vais. Maïtama, vous êtes à la quatrième ligne du paragraphe. Pour quelle raison, toi, Rabat, tu dis cela, qu'il vienne et que je n'ai pas à le voir? Et Abaye lui-même propose une hypothèse. Elima, peut-être, je pourrais dire, on pourrait supposer, Mishum Chevlo shel Mashiach, à cause de cette formule qui se renvoie au thème des douleurs d'enfantement du Messie. Mais ici, il n'y a pas celle de l'Eda, c'est un peu plus général. Les Chavalim, ça veut dire les tribulations, les souffrances de ce moment-là, mais qui concernent le Mashiach lui-même. Et nous aurons le temps d'y revenir. C'est que, à quelque degré que ce soit, il s'agit du sort du peuple juif en engendrement de l'identité messianique, et donc les Chavalim du Mashiach, c'est les Chavalim d'Israël aussi. Et on pourrait dire tout simplement le fait d'avoir assisté au Chavalim du Mashiach, angoisse, rabat. Hypothèse, peut-être c'est ça, à cela que tu fais allusion. Mais Athania, et cependant, n'est-ce pas qu'on nous a enseigné, Sha'alut Talmida avec Rabbi El-Hazar, les disciples de Rabbi El-Hazar avaient interrogé leur maître, Maya'ase Adam Binatzel Mechevo shel Mashiach, que peut faire l'homme et être gardé, être sauvé des souffrances du Mashiach? Réponse qu'avait donné Rabbi El-Hazar, il faut s'occuper de Torah et de vertu. Gnout Chassadim étant la vertu par excellence, qui est la vertu de charité. Je vais essayer d'expliquer tout de suite. Mais je lis d'abord la fin. Umar, toujours Abaye qui parle à son maître, Umar et toi, maître, ha Torah veha Gnout Chassadim. Pour un peu paraphraser, est-ce que ça signifie que tu n'as ni Torah ni vertu? Tu es toi-même la Torah et la vertu, donc de quoi tu as peur? Puisque, d'après cette clause, que Admettons que c'est l'éventualité des tribulations de souffrance. Mais Rabbi Lazar va enseigner à propos de ce problème, lorsqu'on l'a interrogé, que celui qui dispose de Torah et de vertu est prémuni de cela, pourra, si j'ose dire, supporter cela. Il faut mettre en évidence quel est le niveau de cette inquiétude. Je crois qu'on pourrait le comprendre de la manière suivante. Et là, ceux de la génération précédente, en ce qui concerne l'histoire juive en particulier, mais la génération entière du temps du nazisme, et ça nous a obligés à prendre conscience de l'état du monde de notre temps de fin de cycle de civilisation depuis déjà plus qu'une génération. Le monde est entré dans un temps de monde de l'absurde. Et quand le monde devient le monde de l'absurde, alors l'intégrité de la vie intérieure elle-même est atteinte. Et si vous voulez, tout devient dérision. Les valeurs les plus grandes, confrontées au monde qui concrètement a été, et cela a été de façon universelle, générale, globale, pendant ce temps-là, disons de la Shoah, mais chacun à l'échelle individuelle est confronté à des événements dans le monde contemporain qui fait qu'il n'a que cette expérience-là, un monde de l'absurde, comme on dit de façon générale, mais l'expression traditionnelle, c'est un monde sans Shrina. Non seulement la Shrina, l'évidence de la présence du Créateur est cachée, mais que tout se passe comme si elle est complètement disparue. L'essentiel manque au lieu que cela soit en présence évidente. C'est assez corollaire, c'est assez parallèle comme signification au niveau des formules. Mais disons pour reprendre la formule habituelle de la littérature contemporaine, le monde de l'absurde. Si c'est compris réellement dans l'expérience, disons, existentialiste, par exemple, alors on comprend que les hommes de vertu sincère aient peur d'un temps pareil. Parce que la vertu sincère elle-même est atteinte, elle est empoisonnée, elle est dérision. Voilà, je pense qu'on peut l'exprimer de différentes manières, mais peut-être l'essentiel a été dit. Voilà de quoi il a parlé. Un monde où il serait blasphématoire de faire semblant qu'exister c'est bien. Et c'est le scrupule de l'homme de plus haute vertu. Or, qu'est-ce que Rabbi Lazar avait dit à ce sujet? S'il y a Torah, ça veut dire connaissance, même si le monde extérieur est dans l'état de chaos d'un enfer détraqué. S'il y a connaissance suffisamment lucide de ce qu'est le vrai monde et pourquoi le monde de la réalité est devenu comme ça. Connaissance, Torah. Et s'il y a cette vertu essentielle des Gemilut Hasadim, la capacité individuelle d'être en rapport de vertu avec l'autre homme, l'autre créature, l'autrui, dans le sens pur et simple et à tous les niveaux, alors bien que dehors ce soit la dérision absolue, la dérision absolue, la vie intérieure est présente. Et vous voyez à quel niveau il faut être Torah et Gemilut Hasadim pour être préservé de ce que suggère l'état du monde extérieur, un blasphème permanent. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je vais vous donner un petit exemple. On peut dire par exemple le Shabbat. Donc, le Shabbat où il y a pacification intérieure, où le monde intérieur est réordonné alors que le monde extérieur continue à être ce qu'il est. Alors on se promène abrité par son Shabbat portatif. Par exemple, vous sortez de l'hôtel pour aller à la synagogue, ou de chez vous pour aller à la synagogue, vous traversez un mont. Shabbat, qu'est-ce que c'est, okay? Et alors, on le traverse préservé de Torah ou de Mitzvah, préservé de son enveloppement personnel de vertus protectrices. Je ne sais pas comment dire. Shabbat en haut, Shabbat à droite, Shabbat... Non, pas du tout l'inverse, mais Shabbat dedans. Vous avez compris le problème. Bon, il faut que ce soit un vertu d'intégrité grand pour que ce soit efficace. Alors c'est pourquoi quand même Abaye dit à Rabba et toi, tu n'es pas cet auteur, que même au temps des Révélé Mashiach, tu seras protégé par ta vertu, donc de quoi tu as peur? Et si tu as peur, c'est que tu as peur d'autre chose. Parce que cette hypothèse, on ne va pas la retenir pour toi. Vous avez suivi le problème? Ça va jusque-là? Vous avez bien sûr qu'on a bien compris le problème. Nous avons eu beaucoup de témoignages, de textes qui nous sont restés de juifs, même de non-juifs de la Shoah, du temps de la Shoah, des camps de concentration eux-mêmes, où avant de mourir, ils ont laissé des messages que... des témoignages que, alors que, il y a aussi l'autre témoignage que, puisqu'il s'est passé cela, tout ce en quoi on pouvait croire n'a plus de base, n'a plus de sens, il faut évacuer tout ça, que tout n'est que dérision, et d'autres au contraire qui ont réagi, eh bien, en dépit de cela, je sais que c'est vrai. Vous avez compris le point. Et c'est pas uniquement subjectif, dans le sens banal du terme, il y a là des expériences concrètes, objectives. Celui qui porte en lui Torah, connaissance et certitude pour l'avoir goûté que la vertu c'est la vertu et qu'elle est pure, eh bien, quel que soit le déchaînement des réductions extérieures, je ne sais pas comment vous diriez avec un langage plus recodé, on traverse là, on y laisse des cicatrices, des plumes, tout ce que vous voudrez, mais on traverse là. Alors, Abaye prend comme postulat que Rabba est de cette envergure-là. Avec sa Torah et sa Gmilut Hasadim, il pourra traverser un temps pareil. Alors, de quoi a-t-il peur? C'est qu'il a encore une autre hypothèse d'angoisse. C'est clair jusque-là? Je me souviens d'ailleurs d'un texte de M. Levinas qui avait paru dans un des numéros de Nouveau Cahier, quelques années après la Shoah, disons une dizaine d'années, pas beaucoup plus. Il lui décrivait un peu ce monde où tous les critères d'évidence avaient été démolis. A n'est plus A, non A n'est plus non A. Et je ne sais pas s'il citait, je ne crois pas d'ailleurs qu'il citait ce texte-là, mais il y avait la même perspective, une perspective analogue. Mais si on est accroché à des critères sûrs, on peut traverser ça. C'est ça, le monde extérieur a toujours été comme ça autour d'Israël, et Israël a traversé tout ça quand même. Je crois qu'il y a un indice particulier pour le temps de la Shoah. Que tout ce que nous avons traversé depuis le temps du premier homme, même si ça ressemble pas, et pas seulement à cause des dimensions des problèmes. C'est d'une nature différente. Et seuls ceux qui ont traversé ça concrètement, vraiment, ont le droit d'en parler vraiment. Mais il est important de voir que le souci que ça puisse arriver était déjà connu des rabbins du Talmud. D'ailleurs, pour les rabbins du Talmud, quand c'est arrivé, c'est le fait que ce soit arrivé qui était nouveau. Mais que ça puisse arriver, ce n'était pas nouveau pour eux. C'était perçu à l'avance. C'était plus que perçu, imaginé à l'avance. Et comme ils savaient de quoi il pouvait s'agir, du point de vue, étant donné leur connaissance du monde et des hommes, ils disaient, ben si c'est comme ça que ça se passe, que ça se passe, parce qu'il faut que ça se passe, mais que je ne vois pas, parce que je ne sais pas si je supporterai. Vous comprenez, la grandeur de notre génération peut être comprise en se référant à la grandeur de cette génération-là qui avait peur lorsqu'elle pensait au temps qui était le nôtre. Vous comprenez à peu près le... Bon, alors nous sommes sur ce point de la réponse de Abaye à Rabat, non, de l'hypothèse d'Abaye à Rabat, qui n'est pas retenue, cette hypothèse-là. Donc c'est peut-être autre chose. Et nous allons voir immédiatement quelle est la deuxième hypothèse. Mais c'est là que nous arrivons à un point très important. C'est que Rabbi Eliezer ne s'est pas arrêté là. Il dit, voilà la règle générale. Celui qui a Torah et Gmilut Hasadim peut être protégé seulement. Et bien sûr, tu me dis, j'ai Torah et j'ai Gmilut Hasadim. Je ne sais pas d'où tu le sais, mais admettons, seulement voilà, à Marley. Rabba a répondu à Avayé, citant Rabbi Eliezer, Shema Igro Machet. Ces trois mots-là, nous allons essayer de les étudier 15 fois jusqu'à les élucider. Shema Igrom Achet. Dans certaines yeshivot, on dit Shema, mais le sens est le même. Shema au lieu de Shema. Shema en araméen, Shema, dans la prononciation yeshivite, ça veut dire de peur que l'éventualité n'advienne que. De peur que. Igrom Achet. La faute, Achet, Igrom, ne soit cause que ça ne soit pas efficace. C'est-à-dire, il y a protection de connaissances et de vertus, mais il peut y avoir une faute qui fait que ça ne sera pas efficace. Alors, on est perdu, pas perdu, on est de nouveau renvoyé à une liberté nue. C'est-à-dire, même ceux qui ont le poids du mérite sont dans le même cas d'inquiétude que ceux qui n'en auraient pas. Parce qu'il y a cette éventualité qu'une certaine faute risque de rendre inefficace toute cette protection de valeur sur laquelle on pouvait s'appuyer, dire « Le monde sera un enfer, mais moi j'ai ma Torah et ma vertu. » Vous comprenez le problème ? Shema Igrom Achet. C'est là que l'étude, et d'ailleurs nous allons la faire en collaboration, est la plus difficile. Je veux dire, les deux hypothèses de travail. Ou bien, Shema et Grom Achet, ça veut dire la faute en général, quelle qu'elle soit. Et nous savons à quel point un homme ou une femme, d'ailleurs, peut faire des fautes. Il n'y a qu'à lire le Shulchan Aruch, et pour chaque phrase du Shulchan Aruch, il y a 100 000 fautes possibles. Si vous voulez vous convaincre à quel point l'homme peut faire des fautes, il faut étudier le Shulchan Aruch. En général, d'ailleurs, dans n'importe quel code, d'étudier le code. Vous savez que le code est un livre dangereux. Surtout quand on le prend au sérieux, trop au sérieux, c'est un livre à manier avec précaution. Parce que dès la première ligne, on se sent coupable, puisqu'on ne coïncide pas encore. J'ajoute encore, quoi. Alors il faut manier le corps toujours avec beaucoup d'humour. Je me souviens, je vous ai cité une fois, quand nous étions enfants au Talmud Torah, on avait les anciennes éditions du Shofanaour. Dans la page de garde, il y avait trois lettres mystérieuses pour les bibliographes, je ne sais plus. Donc, ces trois lettres, c'est Aleph Tavshin. Et ça veut dire Al Tehi Shoté, ne sois pas fou. Première phrase, ne sois pas fou, parce que tu vas ouvrir le code. Attention. Okay. Vous comprenez? Et l'exemple que je peux donner, ça revient de ma vie d'étudiant, c'est qu'à l'époque, je connaissais des étudiants en médecine, qui chaque fois qu'ils apprenaient une maladie dans leur manuel, le lendemain, ils étaient sûrs de l'avoir. Vous voyez à peu près. Alors, il faut se méfier de cela. Je crois que les grands livres de morale, il faut quand même. Les grands livres de morale, je veux dire, ce sont des livres de haut niveau d'exigence morale. Il faut attendre peut-être, sans doute, puisque peut-être, un certain niveau de maturité, et là j'en ai une des dimensions, avant d'oser les ouvrir. Parce que quand des jeunes gens étudient cela, ils sont complètement écrasés par ce qui est la vraie morale, mais à quel niveau, qui ne les concerne pas encore. Bon, j'ai parlé trop vite, mais vous comprenez le problème. Et, peut-être pour une petite parenthèse, nous avons toujours été frappés de ce danger de l'enthousiasme du prédicateur, qui, surtout quand il parle aux enfants, aux adolescents, il parle dans un style où il y a simultanément l'exigence d'une morale de vieillard au niveau d'une conception du monde infantile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors, il faut savoir qu'on parle aux enfants d'Israël, et chacun a son âge. En tout cas, au niveau de la découverte du problème moral, c'est très traumatisant lorsque ce n'est pas manié avec l'humour, le code. C'est ce qu'il faut retenir, en tout cas. Vous savez qu'on peut envoyer en enfer, enfin, à la potence, n'importe qui, en ouvrant le code n'importe où. Oui. Et qu'à confronter. Comment tu es? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Disqualifié tout de suite, a priori. Bon. Alors, on revient au problème. C'est que la première hypothèse de lecture serait chez Maïdrom Hachet, la faute, n'importe laquelle. Quelle que soit la faute qui serait faite, la faute pourrait avoir comme conséquence que cette a priori de vertu protectrice soit inefficace, parce que la faute suspend le mérite. On pourrait dire comme ça. Et je crois que c'est une lecture qui pouvait être véhiculée, parce qu'elle est vraie en soi, qui pouvait être véhiculée avant que nous étions confrontés aux événements eux-mêmes.